Le frère Renaud Silly est avant tout exégète. Il a publié sa thèse sur le livre des Proverbes de Salomon, hein, chapitres 8 et 9, il y a quelques années. Vous ne le trouverez pas, on ne l'a pas mis en vente. Hein. Mais s'il est là, s'il est venu, c'est entre autres parce qu'il a dirigé la publication du Dictionnaire Jésus, dont il nous a entretenu hier soir, qui se fait l'écho des toutes dernières recherches de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, hein, sur la figure de Jésus, dont il nous a parlé hier soir, de cette figure fascinante de Jésus. Mais le frère Renaud a aussi une autre corde à son arc. Il est aussi un spécialiste de Bossuet. Et c'est à ce titre qu'il a édité un certain nombre de textes de référence de Bossuet, dont les élévations sur les mystères, les méditations, etc. Édition établie et présentée par Renaud Silly. C'est paru aussi il n'y a pas très longtemps, hein, dans la collection bouquins. Et c'est ce dont il va nous entretenir. Voilà, frère Renaud, nous sommes très heureux, très honorés de vous recevoir parmi nous. J'espère que j'ai rien oublié dans ma présentation. C'est bon. Eh bien, nous vous écoutons avec plaisir.
Je suis très, très heureux de pouvoir vous entretenir un peu de Bossuet, parce que bon, c'est vrai que quand on est exégète, on est d'abord sollicité, évidemment, pour l'écriture sainte. Et Bossuet, c'est un peu un jardin secret, si vous voulez. Je peux vous faire même une confidence, c'est que quand j'ai passé mon bac, il y a quand même presque 27 ans de ça, eh bien, j'avais reçu une prime à l'issue du bac, et je l'avais dépensée en achetant une édition complète de Bossuet, de 19e siècle, la fameuse édition L'Achat, qui m'a suivi partout où je suis allé. Ou plutôt c'est moi qui l'ai suivi partout, voilà, parce que Bossuet me précède. Et vous voyez, je l'ai énormément pratiqué, et je le pratique toujours, mais j'ai jamais eu de formation universitaire sur Bossuet. Vous voyez, j'ai pas étudié auprès de Gérard Ferrérol ou de Anne-Régent Susini, enfin des gens qui sont très compétents en la matière. Peu importe, c'est une autre manière de connaître. Je suis très heureux aussi de parler devant deux évêques, hein, parce que c'est vrai que s'il y a quelque chose qui vraiment définit Bossuet, c'est d'avoir été évêque jusqu'au bout des ongles et d'avoir honoré toutes les dimensions de ce charisme épiscopal, à la fois pasteur, docteur, conseiller des puissants, directeur d'âme. Que sais-je, je vous en toucherai un mot. Pour bien comprendre la physionomie intellectuelle de Bossuet, oui, je vais vous montrer qu'en réalité, ça, c'est des personnages qui, gens comme lui, s'inscrivent dans une tradition, bien sûr. Je vais vous le faire à partir d'un exemple biblique, celui de l'Ecclésiaste, d'une part, et de Ben Sira, de l'autre. Vous savez que l'Ecclésiaste, ou Kohélète en hébreu, est un personnage extraordinaire, vanité des vanités, tout est vanité, qui a éprouvé la satiété des biens, et il constate que l'homme qui a accumulé savoir, sagesse, culture, est sujet, plus qu'un autre peut-être, à l'inquiétude existentielle, plus encore peut-être que celui qui n'a rien. Son livre ne remet pas en cause le bien fondé de la tradition d'Israël, il la révère sans doute, mais il ne se prive pas de faire entendre une petite musique entêtante, perturbante, au nom d'une expérience personnelle et de l'angoisse qui le saisit devant le destin. Angoisse que rien ne peut apaiser, pas même le soutien réconfortant d'une tradition dont il sait qu'elle est vénérable et admirable. Bref, au nom de ce qu'il a vécu, lui qui a couvert toute la panoplie de la sagesse, il proteste secrètement mais continuellement contre les discours reçus. Et vient Ben Sira. Donc, vous savez que dans nos Bibles, on l'appelle soit le Siracide ou l'Ecclésiastique, dans la version latine. faut pas confondre l'ecclésiaste et l'ecclésiastique. Hein. C'est souvent, on mélange un peu, mais c'est bien deux personnages différents, et surtout, ce sont deux auteurs parfaitement identifiés, dont le livre de Ben Sira est une réponse à l'ecclésiaste. Il est peut-être d'ailleurs en partie contemporain, mais vraisemblablement, il est quand même de la génération vraiment suivante, voire deux générations après. En tout cas, c'est clair que le livre, il faut le lire comme une réponse à l'ecclésiaste. Et c'est l'exact opposé, au sens où c'est en lui la somme de l'expérience d'Israël converge, et toujours là, au nom de cette expérience personnelle, il atteste combien la sagesse multiforme des prophètes, des prêtres, des rois, des sages, est un trésor de vie. De sorte que, quand vous lisez, c'est fascinant d'un point de vue littéraire, puisque dans l'Ecclésiaste, on sent bien que les réminiscences de la Bible sont partout, mais elles ne sont jamais textuelles. Parce que, d'une certaine manière, il y a toujours une espèce de recul, même par rapport à la tradition sacrée. Parce que c'est un philosophe qui pense d'abord rationnellement. Alors que chez Ben Sira, la Bible affleure partout. Les citations textuelles, c'est quasiment une mosaïque, en fait, de citations de la Bible, parce qu'il a assimilé toutes les dimensions de tradition qui ont pu être antithétiques à certaines époques, mais qui, de son temps, sont devenues vraiment un trésor traditionnel, hein, entièrement unifié, une parole de vie, dans laquelle l'expérience du culte, celle de la loi, la morale, l'expérience, toutes ces expériences, toutes ces réalités fondatrices de l'expérience religieuse d'Israël convergent comme une parole de vie qui ont permis à Ben Sira de faire face à une vie d'ailleurs extrêmement intéressante, des voyages, des ambassades, plein de choses. Vous lisez donc à peu près à la fin du livre de Ben Sira, même si la fleur s'étiole à la maturité, les raisins réjouissent le cœur. De quoi est-ce qu'il nous parle? En fait, de l'expérience d'un vieil homme. La fleur, c'est la jeunesse. Et donc, la fleur est promesse de toutes sortes de beautés. Quand on est âgé, eh bien, la fleur s'étiole, mais c'est pour laisser place au fruit. Et au fond, le fruit est encore meilleur que la fleur, puisque, sauf exception, la fleur, on ne la mange pas, on se contente de la regarder, tandis que le fruit se savoure, hein, et il est plein de sucre et il est nourrissant. Alors que vous vous disiez à la fin du livre de l'Ecclésiaste, hein, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, au jour où tu diras « ces années-là, je ne les aime pas », au jour où l'on a des peines dans la côte, hein, au jour où on a des frayeurs sur la route, au jour où celles qui meulent cessent leur bruit, trop peu nombreuses. En fait, celles qui meulent, c'est les dents, hein, parce qu'il les a perdues. Au jour où s'affaiblissent les gardiens de la maison. En fait, ça, c'est les bras qui ne sont plus capables de porter des choses. Donc, vous voyez que dans l'Ecclésiaste, cette expérience de l'âge, de la diminution des forces physiques, scelle définitivement son angoisse et sa nostalgie. Alors que pour Ben Sira, c'est le moment où on cueille les derniers fruits, les fruits d'automne, les fruits les plus doux. C'est fascinant d'ailleurs de penser que la Révélation inclut deux personnages aussi profondément opposés que ceux-là, Ben Sira et Coëlette, qui se ressemblent tellement peu, et qui pourtant, justement, l'un et l'autre disent quelque chose de l'expérience authentique de Dieu. C'est sûr qu'une voix comme celle de l'Ecclésiaste, avec sa petite musique, sa remise en cause systématique, au nom de l'expérience individuelle, surprend dans la Révélation, elle ne peut y occuper qu'une place seconde, pas secondaire, parce qu'elle est très importante, mais seconde, au sens où c'est bien en se fondant sur la force affirmative de la tradition que quelqu'un comme l'Ecclésiaste peut se permettre de l'interroger. D'où le fait que l'Ecclésiaste soit encadré, d'une part par les proverbes de Salomon qu'il conteste, et par Ben Sira, qui en quelque sorte opère un retour à la morale et au mode de vie incarné par les proverbes, c'est-à-dire ce mode essentiellement affirmatif qui affirme la bonté de l'héritage reçu. C'est bien en se fondant sur la valeur affirmative de la tradition, incarnée par Ben Sira ou par les proverbes, que l'ecclésiaste peut s'autoriser ses vertiges expérimentaux. Eh bien, nous avons un rapport très semblable dans notre grande tradition française entre Pascal et Bossuet. Vous savez que Pascal, comme l'ecclésiaste qui ne dit pas son nom, donc qui se couvre d'un pseudonyme, pour justement qui fait partie de la construction de ce personnage qui un peu subversif, d'où le fait de l'usage du pseudonyme. Pascal aussi a usé de pseudonymes. Les provinciales ont été écrites sous le nom d'un certain Louis de Montalt. Et c'est pas uniquement parce qu'il y avait des problèmes de censure derrière, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, il voulait pas s'exposer. Et dans les pensées, vous avez un personnage curieux qui apparaît, qui s'appelle Salomon de Tulti. Et qui est-ce ? En fait, c'est un anagramme de Louis de Montalt, déjà, et Salomon de Tulti, parce que Salomon, c'est en fait la figure derrière laquelle se cache l'Ecclésiaste, puisqu'il nous dit qu'il a été fils de David et roi à Jérusalem. Vous voyez, bon. Donc c'est d'où le fait que une tradition, d'ailleurs, dit que l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est Salomon lui-même. Et Pascal dit d'ailleurs à un moment, Salomon et Job nous ont appris le fond de l'expérience humaine, Salomon par la satiété des biens et Job par l'expérience des maux. Donc en fait, deux formes de malheur, c'est-à-dire être dégoûté des biens que l'on a accumulés ou expérimenter carrément le mal, la maladie, le deuil, etc. Donc on voit bien qu'un Pascal est une réminiscence de cette attitude spirituelle et religieuse, profondément authentique, qui est celle de l'Ecclésiaste. Eh bien, vous rappelez-vous, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, toujours cette angoisse là, devant le monde écrasant, où l'homme est un roseau pensant, avec un sens du tragique très fort. Alors que Bossuet, lui, est définitivement une figure à la Ben Sira. Ça, c'est même, d'une certaine manière, c'est un Ben Sira français, en quelque sorte, qui lui, recueille l'héritage de toute la tradition, alors qui a encore avancé par rapport à l'époque de Ben Sira, d'une part la Bible, la patristique, également ce renouvellement des études qui a eu lieu à la Renaissance, qui fait que Bossuet a profité de toute une entreprise de ressourcement, de redécouverte des sources chrétiennes qui a eu lieu au début, pendant tout le XVIIe siècle, en fait, souvent conduite d'ailleurs par des bénédictins, mais pas uniquement. De sorte que, je vous le montrerai aussi après, Bossuet, un personnage qui aussi a une connaissance donc admirable de l'histoire, de la tradition théologique, de l'histoire de France, également, je vous montrerai pourquoi. Et sous une plume un petit peu inattendue, on lit peut-être un des plus beaux éloges de Bossuet, je vous dirai après de qui ça vient, pour que l'effet de surprise soit maximal. Alors, lorsque Bossuet s'installe à Meaux, il a déjà plus de 50 ans, au cours d'une vie construite avec l'ordonnance large et simple d'un palais, homme de pensée et d'action tout ensemble, doué de magnifiques facultés qu'enrichit sans cesse le labeur, serviteur mais non esclave de la tradition et de la règle, orateur par nature et si fortement inspiré que le flux de sa phrase emporte à tout moment l'obstacle des conventions. Moraliste certes, critique résolu des vices du temps, censeur sans pitié des mauvais riches, tendre défenseur des petits, languissant avec les malades, pâtissant avec les pauvres et lançant contre le luxe des cris si indignés qu'ils nous émeuvent aujourd'hui encore par leur hardiesse. Prêcher devant la cour quand même. Polémiste autant que sermonnaire, toujours en bataille pour sa doctrine, menant la lutte contre les protestants avec un désir évident de rapprochement et de conciliation, autoritaire par besoin d'ordre et d'unité, mais réservé, ingénument indépendant, Bossuet avait mis au service de l'Église la continuité de son effort, au service de la royauté une conviction exempte de toute servilité, et la charge à laquelle il venait se concentrer comme précepteur du dauphin pendant 10 années avait eu du moins cet avantage de l'amener à scruter toutes les formes de la connaissance, histoire, logique, morale, jurisprudence, politique, physique, même et physiologie. Si bien qu'ayant établi à la fois la théorie du catholicisme et celle de la monarchie, il apparaissait comme le véritable auteur d'une somme de ce temps, dominant ses contemporains et sa propre science de ce regard clair qui, dans le portrait de Rigaud, nous séduit. Et le portrait de Rigaud, c'est celui justement qui est sur la couverture du volume bouquin. Donc vous avez là, il y a deux portraits de Rigaud, celui de 1702, je crois, en grand habit, qui est d'ailleurs, qui n'a pas rendu de grand service à Bossuet, au fond, qui l'a fait passer pour un homme officiel, bon, enfin, engoncé dans les palais, et ce portrait beaucoup plus beau, en fait, je trouve, de 1695, dans lequel nous avons la bonté, la force, hein, tout ce qui émane vraiment d'un homme qui regarde de haut son temps. Cet éloge de Bossuet vient de Édouard Herriot. C'est un petit peu surprenant, puisque c'est vrai qu'Édouard Herriot s'est pas spécialement distingué par un cléricalisme à toute épreuve, même plutôt l'inverse, mais vous voyez qu'on sent un homme cultivé, hein, qui est capable de sentir les vraies grandeurs. Bossuet, vous voyez, a été nommé le dernier père de l'Église. Vous l'avez d'ailleurs, Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, dans une lettre sur le génie du christianisme, le décrit comme tel. Bossuet est plus qu'un historien, c'est un père de l'Église, un prêtre inspiré qui a souvent le rayon de feu sur le front, comme le législateur des Hébreux. Quelle revue il fait de la terre! Il est en mille lieux à la fois, patriarche sous le palmier de Tophel, ministre à la cour de Babylone, prêtre à Memphis, législateur à Sparte, etc. Voilà, ça il parle du discours sur l'histoire universelle. Dernier père de l'Église, pourquoi? Parce que oui, on a senti qu'avec Bossuet, c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici devant des évêques, c'est que Bossuet représentait quelque chose qui a fait le génie des pères, c'est-à-dire d'être à la fois docteur de la foi, pasteur, immergé jusqu'au plus profond dans les controverses doctrinales de leur temps, poète, créateur de langue, conseiller des souverains, mais aussi leurs adversaires parfois, directeur d'âme. En eux se voyait une sorte de complémentarité, enfin de totalité, de la science chrétienne, la sagesse chrétienne, qui a prétention à juger le monde à partir de sa cause première, qui est Dieu, selon des révélations surnaturelles qui sont données dans l'Écriture sainte et dans la tradition authentique. Vous voyez, qui a permis à ces personnages d'être des hommes complets, d'être tout à la fois. Et c'est vrai que si vous regardez Basile de Césarée, saint Augustin, saint Ambroise, saint Grégoire le Grand, bien sûr, tous ces personnages sont des hommes siècles, en quelque sorte, hein, qui récapitulent en leur propre personne tous les charismes de l'Église, pas tous, mais de nombreux charismes de l'Église, et qui ont été, de fait, des fondateurs de civilisation. Eh bien, on voit quelque chose de ça chez Bossuet. Alors, comment ça se remarque? Juste rapidement, quelques données qui permettent de situer cet itinéraire. Donc, il est né à Dijon. Il a été éduqué dans une famille de parlementaires. Son père, d'ailleurs, exerçait comme conseiller référendaire à Metz. D'où le fait qu'il a été chez un oncle. Il logeait cet oncle pendant que son père était à Metz. Et d'ailleurs, au collège des Jésuites de Dijon, où chez cet oncle, d'ailleurs, il avait trouvé une Bible. Et il explique beaucoup plus tard que cette Bible qu'il a lue, donc une Bible latine, qu'il a lue à 14 ou 15 ans, lui a provoqué des transports intérieurs, et qui fait que toute sa vie, son verbe a été marqué par le rythme de l'Écriture sainte, et spécialement de la Vulgate. D'ailleurs, en cela, vous savez, ça rappelle, c'est un tempérament, je vous ai parlé de Ben Sira, ça évoque beaucoup un tempérament comme Claudel également, qui raconte comment son rythme, le rythme de sa prose, a été marqué par l'écoute des vêpres dans sa paroisse de Villeneuve-sous-Fère quand il était enfant, et qui a définitivement, pour toujours, en quelque sorte, inscrit cette musique de la Vulgate, hein, et donc de la Bible, mais médiatisée par la langue latine, dans sa prose. Et au fond, ces auteurs qui nous paraissent des créateurs de formes tellement géniaux, c'est aussi grâce à leur contact permanent avec la Vulgate latine, qu'ils ont pu se le permettre, et aussi avec les psaumes, qui sont, eux, pour le coup, une version plus ancienne. Comme il était destiné à l'état ecclésiastique, il a entamé donc des études en Sorbonne avec d'excellents maîtres, hein, dont d'ailleurs il a plus tard rédigé l'oraison funèbre, qui s'appelait Nicolas Cornet, qui était oratorien, et qui est un personnage intéressant, puisque c'est Nicolas Cornet qui avait excipé les formules condamnées du formulaire de Jansénus. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, qui a rédigé ces formules tirées de l'Augustinus de Jansénus, et qui ont dit, voilà, cet auteur est condamné parce que son livre contient ces propositions, hein, 5 propositions, qui sont hérétiques, voilà, enfin, qui ne sont pas en accord avec la foi. Et de fait, Bossuet, il n'a jamais été janséniste, ça c'est clair. Ensuite, il a beaucoup profité, vous voyez, d'un mouvement de renouveau, d'érudition, qui a été bien montré par le père Martimor, qui était en cours, hein, à Paris dans les années 1640-1650, mais lui c'est les années 1640 surtout, réédition des Pères de l'Église, d'édition bénédictine de saint Augustin, et puis de tout un travail de réappropriation, en quelque sorte, de sources chrétiennes, grecques en particulier, que saint Thomas, par exemple, avait cherché à connaître, mais il avait eu accès à certaines choses, mais pas à tout. À l'époque de Bossuet, des grandes éditions parisiennes, qu'on a encore dans les bibliothèques ecclésiastiques, étaient en cours. Donc il a beaucoup profité de ça. Il avait une excellente connaissance de la patristique, que saint Thomas, par exemple, aurait désiré avoir, mais qu'il n'a pas pu avoir aussi complète, disons. On voit que saint Thomas, quand même, connaissait pas mal, avec la Catena Aurea. Bon. Mais en même temps, ces années, il a fréquenté saint Vincent de Paul. Et vous savez que, un compatriote, pour vous, et saint Vincent de Paul, à cette époque, était en plein dans son entreprise de réforme du clergé, et de mission dans le monde rural, chez les paysans, hein, qu'il avait commencé à Châtillon-sur-Chalaronne, puis en fait après la fondation des pères de la mission, les Lazaristes. Et Bossuet a beaucoup fréquenté Saint-Vincent de Paul à ce moment-là. C'est pour ça que quand il a été ordonné prêtre, il a désiré partir, devenir une sorte de missionnaire, hein, c'est-à-dire prédicateur dans les campagnes, en province. Donc il est parti à Metz, où il a passé pratiquement 7 ans, où il a prêché. Et cette période est très intéressante pour lui, parce que, vous voyez, Metz venait d'être conquise, enfin, depuis pas un siècle quand même, mais par le roi de France, et elle avait un statut particulier qui faisait que les juifs et les protestants y étaient protégés, hein, parce que c'était des règlements originaire du Saint-Empire, bon, qui fait que le droit du royaume de France ne s'appliquait pas de la même manière. Et donc, à Metz, il a pu rencontrer un contact direct avec des protestants, et c'est de ce moment-là que commencent ces controverses, hein, avec le sieur Ferry, par exemple, et quelque chose qu'il a mené toute sa vie. Vous voyez, il a toujours vraiment, il n'a jamais abandonné, hein, le dialogue, hein, à la fin, même avec Leibniz, un dialogue épistolaire. Mais ça fait partie des choses qui l'ont suivi toute sa vie. Et chose précieuse aussi, il a donc eu une connaissance de première main du judaïsme. Vous voyez, ce qui n'aurait pas été possible ailleurs dans le royaume de France, puisque les juifs n'y avaient pas d'existence officielle. C'était possible donc dans le Comte Avenessin, avec les juifs du pape, mais là, Bossuet n'y est jamais allé. Et à Metz, il y avait une communauté de pratiquement, je crois, 1500 personnes quand même, juives. Et ça, ça a été quelque chose d'intéressant, hein, et qui est une plus-value, en quelque sorte, tout à fait remarquable pour lui. Alors, après cette période messine, il a entamé, c'est assez facile, vous voyez, l'année décennie 1640, c'est la formation de Bossuet. Décennie 1650, c'est la prédication à Metz, grosso modo. Décennie 1660, c'est le moment où il a commencé. Il est devenu prédicateur à la cour, enfin pas à la cour, à Paris, où il a prêché en toutes sortes de lieux. Alors la cour, il y a eu les carêmes, les avants. Il faut savoir que Bossuet était évidemment apprécié. Ce n'était pas le plus apprécié de tous les prédicateurs, parce que, au fond, les gens préféraient des styles plus classiques, si vous voulez, de prédicateurs maniant l'exhortation morale, comme Bourdaloue, hein, Massillon. Bossuet, avec sa créativité poétique permanente, hein, c'était, de cette manière, les gens étaient un peu déconcertés par un tel flot de poétique permanent. Mais il était quand même populaire, bien sûr. Et vous savez qu'il y avait plusieurs lieux à Paris, puisque il y avait des paroisses assez mondaines où venait la haute société. Bon, il y avait aussi des lieux, par exemple, qui étaient fréquentés par les âmes qui désiraient vraiment avancer dans la perfection spirituelle. La chapelle des Carmélites, par exemple. Celle où plus tard, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est l'autre, j'ai plus vu, où plus tard Bossuet a obtenu que puisse faire ses vœux Mademoiselle de la Vallière, était un des lieux justement qui était fréquenté par les âmes en recherche vraiment d'un contenu spirituel plus abouti et plus que seulement la grande prédication mondaine. La cour, bien sûr, où il a prêché deux carêmes, plusieurs avants. Donc cette décennie 1660, c'est une période donc de prédication. À côté de ça, il ne faut pas oublier que pendant toute sa vie, Bossuet a toujours dirigé des thèses, fait passer des examens, tout le temps. Ça, c'est important, on ne le sait pas trop parce que ce n'est pas quelque chose qui apparaît, mais il a toujours accompagné des travaux universitaires, enfin, à partir du moment où il est revenu à Paris, disons. Donc en 1669, il a été, alors bouleversement, puisque d'une part, il a été nommé évêque de Condom. La cour avait connu cet homme, hein, qui avait quand même brillé. Et on a pensé qu'il serait un candidat tout à fait propre à l'épiscopat. Donc à l'époque, il y avait une procédure de nomination impliquant le roi et le pape. Il a été nommé évêque de Condom. Et puis, à peine quelques jours, quelques semaines après avoir été sacré, il a été nommé précepteur du Grand Dauphin, donc du fils de Louis XIV. Précepteur, vous savez que l'éducation d'un roi avait deux facettes. Il y avait un gouverneur, qui était un grand seigneur, en l'occurrence le duc de Montausier, qui devait donc, là pour le coup, transmettre au prince l'éthos de la cour, les valeurs militaires, la courtoisie, hein, le sens du gouvernement. Et un précepteur qui, lui, se chargeait de la formation intellectuelle, et qui était en général un évêque. Donc, Bossuet a été nommé précepteur, c'est pour ça qu'il n'a jamais pris possession de son siège de Condom. Je ne sais pas s'il y a une partie de l'ancien diocèse de Condom qui fait partie du vôtre, monseigneur, mais... Oui, c'est Hoche, mais est-ce qu'il n'y a pas une part... Parce que ça ne recoupe pas exactement, quand même, alors, donc, je sais...
Mais c'est possible.
Hein. C'est pas impossible qu'il y ait une partie... voilà. Oui, tout à fait, oui. Mais après, vous voyez, du côté de Villeneuve-de-Marsan, dans ces coins-là, enfin, je ne sais pas. Disons que ce n'est pas impossible en soi. Puisque c'est pour ça qu'il n'est jamais allé à Condom. Donc la décennie 1670 a été consacrée à l'éducation du Grand Dauphin. Alors, Bossuet étant un bourreau de travail, vous l'avez vu, c'est ce que disait Édouard Herriot, il a pris cette charge très à cœur. Et en particulier... il réunissait tous les jeudis ce qu'il appelait le concile, qui était en fait une réunion de savants, justement ceux qu'il avait connus quelques années avant dans ses années d'études parisiennes, parmi eux, et qu'il chargeait d'aller dépouiller les dépôts d'archives dans les provinces, dans les villes, dans les diocèses, les abbayes, etc., de façon à, et lui recevant des comptes rendus, qu'il synthétisait ensuite pour le prince, l'idée étant que, puisque le prince ne pourrait pas aller partout, qu'il ait quand même une connaissance réelle des institutions et de la variété de ce plus beau royaume qui est sous le ciel, qui était le royaume de France. Savoir que, en fait, le Languedoc, ça n'est pas la Bretagne, la Provence, c'est pas la Champagne, voilà, que chacune de ces régions est entrée dans le royaume à un titre différent, à une époque qui n'est pas la même, avec des garanties pour de ces libertés qui sont pas les mêmes. Oui. Autant de choses que la Révolution a daubé là-dessus en disant que qu'est-ce que c'est que cette diversité de statuts, etc. Bon. Et alors qu'en fait, cette diversité des provinces ne trahissait simplement la réalité de la constitution de ce pays, qui n'est pas une réalité naturelle, mais qui est bien le résultat de siècles et de siècles de sécrétions lentes, qui ont fait que ces régions se sont retrouvées agglomérées sous un seul roi. C'est vrai que si vous y songez, la France est certainement, au fond, le pays probablement intrinsèquement le plus varié de toute l'Europe. Voyez, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les Flamands de Dunkerque et les Corses d'Ajaccio, entre les Basques de Biarritz et les Alsaciens de Strasbourg, entre les Bretons qui sont là-bas et les Provençaux. Vous voyez, il n'y a aucun pays en Europe en tout cas, qui possède une telle variété en fait, ethnique à la base. Et forcément, c'est quelque chose dont Bossuet voulait transmettre, d'où ce fameux concile. Et en même temps donc, qu'il faisait ça, il avait repris toutes ses études, c'est-à-dire qu'il a amélioré sa formation en philosophie, en histoire, en théologie, ça allait. Mais en revanche, les sciences profanes, disons, enfin, entre guillemets, de philosophie, histoire en particulier, et de lettres également. Il a repris Homère, il a repris son grec, etc., bon, pour pouvoir lire tous ces grands auteurs. Donc cette décennie a été extrêmement féconde pour lui, parce que disposant de moyens quasiment illimités pour mener à bien l'éducation du prince, il a pu vraiment réunir ce concile de savants, les envoyer à droite et à gauche, et lui-même consacrer du temps pour relire ce qui lui manquait, entre guillemets, qui n'avait pas eu le temps de travailler dans la décennie précédente. À 20 ans, le prince avait fini sa formation, d'après les règles de l'époque, et donc le précepteur quittait son emploi, et donc à ce moment-là, Bossuet a été nommé évêque de Meaux. C'est comme ça donc qu'il est devenu en 1681 évêque de Meaux, et ce qu'il est resté jusqu'à sa mort. Et donc, les deux décennies, 1680-1690, sont en fait des années d'épanouissement complet. Vous voyez la comparaison avec Ben Sira de tout à l'heure, où nous voyons que toutes ces choses qui ont en quelque sorte convergé en lui, toutes ces strates de science et de sagesse chrétienne qui se sont déposées dans cette personnalité merveilleusement unifiée, se sont déployées. Alors, c'est là qu'il a commencé, donc c'est là qu'il a publié le discours sur l'histoire universelle, qui est le résultat en fait de ces études historiques qu'il a faites pendant la décennie 1670, et qu'il s'est mêlé donc à des controverses, il a continué la controverse avec les protestants, avec cette fois-ci la publication de l'histoire des variations des églises protestantes en 1689, on était également en plein dans la querelle sur le gallicanisme, dans laquelle Bossuet a joué aussi un grand rôle. Ensuite, dans la décennie 1690, la grande question, c'était le quiétisme, bien sûr, avec ce combat homérique de l'aigle et du cygne, l'aigle de Meaux et le cygne de Cambrai, Fénelon dans le nord et Bossuet à Meaux. Donc, avec là, toute une série d'épisodes extrêmement intéressants. Et avec, c'est beau d'ailleurs de penser que la dernière grande controverse à laquelle Bossuet s'est mêlé porte sur la perfection chrétienne. C'est en fait parce que c'était ça l'enjeu. Après des querelles théologiques, ecclésiales, il y a eu à la fin, d'une certaine manière, ce qui a peut-être le plus mobilisé son énergie, ou peut-être qui a suscité chez lui le plus grand sentiment d'urgence, presque de frénésie, même on pourrait dire, c'était le fait de compromettre la sainteté chrétienne, comme le faisait à son avis les quiétistes. C'est-à-dire qu'il transposait ce qui est la véritable perfection dans une espèce de chimère sentimentale et complaisante. Et c'est vrai que je pense que Bossuet a considéré cette querelle comme quelque chose peut-être la plus grave de sa vie, parce qu'il sentait qu'on était en train de toucher à la sainteté, d'une certaine manière, en faisant passer pour saint ce qui n'en était qu'une contrefaçon. Voilà. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Dites-moi combien de temps j'aime mon père, parce qu'il faut que je fasse attention. Vous voyez pourquoi c'est... Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi ça vaut la peine aussi d'aborder cette question devant une assemblée de théologiens comme vous, des gens qui vous intéressaient à l'histoire des idées, c'est que Bossuet a beaucoup à nous dire là-dessus. Alors, d'une part, dans le volume bouquin que vous avez là-bas, en vente, là vous avez ce qui, à mon avis, est le chef-d'œuvre de Bossuet, qui sont les méditations sur l'Évangile et les élévations sur les mystères, des œuvres dont ils disaient eux-mêmes qu'elles ne lui coûtaient rien, parce qu'il les a écrites alors qu'il était immergé dans la controverse sur le quiétisme. Vous voyez, pendant cette période, il a relu saint Thomas, les docteurs spirituels, de façon à trouver les arguments pour réfuter les quiétistes. Donc il a trouvé les arguments pour réfuter les quiétistes. On sent que c'était une recherche fiévreuse, et qui laisse d'ailleurs de très belles œuvres qui s'appellent les traités sur les états de raison, les instructions sur les états de raison. Il y a deux traités tout à fait intéressants. Mais c'était évidemment des recherches ardues, il avait quand même presque 70 ans. Et donc, pour se délasser, comme il le dit lui-même, et aussi par sollicitude pastorale, parce qu'il a toujours entretenu des correspondances spirituelles avec beaucoup de monde, il a écrit ses méditations sur l'Évangile et ses élévations sur les mystères, qui sont en fait des méditations sur l'Écriture sainte, à destination d'abord des religieuses, des Ursulines de Meaux. Et puis à partir de là, évidemment, c'était destiné à un plus grand public. Et il dit lui-même que ça ne lui coûtait rien, parce qu'en fait, pour moi c'est fascinant, parce qu'on sent bien que c'est un homme qui est totalement pénétré de l'Écriture sainte. Et ça, c'est-à-dire que ça arrive constamment sous sa plume. Je vous en donne un exemple comme ça. C'est un moment où il commente donc la chevauche, enfin pardon, l'arrivée du Christ au jour des rameaux. Je mettrai en fuite les chariots d'Éphraïm attelés à quatre chevaux et les fiers coursiers de Jérusalem. Tous les arcs tendus pour le combat seront rompus et il annoncera la paix aux nations. Sa puissance s'étendra d'une mer à l'autre, depuis les fleuves où il prêchera, où il donnera le nouveau baptême, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous, sauveur victorieux, vous avez, par le sang de votre alliance, tiré vos prisonniers du lac où il n'y a point d'eau. Alors, en fait, vous voyez, une phrase comme celle-là est très étonnante, parce que c'est un tissu de citations bibliques qui sont empruntées au livre de Zacharie, à des psaumes, et tout ça étant convergent dans une espèce de style que Valéry appelait un style en voûte. Pourquoi un style en voûte ? C'est parce que la période s'élève progressivement jusqu'à une hauteur vertigineuse, elle s'y maintient on ne sait pas comment, et elle redescend avec des degrés d'une parfaite sécurité. qui fait que vous avez une élévation et un rythme presque celui du cœur qui bat, enfin, de systole et de diastole, qui est un rythme, une pulsation vitale, dans lequel, eh bien, c'est le mouvement même de la vie, fait de repos et de mouvement, qui en quelque sorte se distribue, nous distribue comme ça, de manière progressive et adaptée, les réalités mystiques que nous contemplons dans l'écriture. Donc c'est évidemment un style, c'est absolument sublime. Bon, je vous en ai donné qu'un exemple comme ça, mais il y en a évidemment, c'est tout le temps comme ça, hein, les méditations sur l'évangile, les méditations, c'est ce style-là. Vous êtes en quelque sorte, quand on écoute ça, surtout si c'est proclamé, j'en ai fait l'expérience, figurez-vous, parce que étant lecteur conventuel du couvent de Toulouse, j'ai mis ça comme, j'ai eu parfois, hein, des lectures de Bossuet à table. Et j'ai presque l'impression que en fait, on a le cœur qui finit par battre au même rythme que la phrase, vous voyez, hein, comme si c'était, on était en quelque sorte en harmonie avec cette langue, qui est avec ces syllabes divines. Donc, ça, c'est tout. Alors, c'est très étonnant parce que vous voyez, vous avez vu, je mettrai en fuite les chariots d'Éphraïm attelés à quatre chevaux et les fiers coursiers de Jérusalem. Donc, ça, c'est une citation du prophète Zacharie ou de Habacuc, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ça vient de là. Or, justement, il parle de l'anon sur lequel Jésus entre à Jérusalem. Voilà, donc en effet, Dieu va mettre en fuite les fiers coursiers pour leur mettre à la place un anon. Et. Les arcs tendus pour le combat, vous avez les arcs, vous avez presque la flèche là qui part, tous les arcs, hein, c'est un terme qui est presque performatif, l'arc en français. Tous les arcs tendus pour le combat seront rompus et il annoncerait la paix aux nations, donc citation d'un autre psaume, proverbe, je ne sais plus où c'est d'un autre prophète. Et ensuite, et vous, sauveur victorieux, vous avez par le sang de votre alliance tiré vos prisonniers du lac où il n'y a point d'eau. Eruisti animam leam de lacu. Tu as tiré mon âme du lac. Bref. Et ça vous, évidemment, quand vous l'entendez, quand vous le lisez, vous constatez une sorte de. C'est parfait. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Et donc, vous avez l'impression que c'est presque une œuvre d'imagination, vous voyez, d'un très grand artiste qui voit, qui dresse un tableau sublime. Bon. Mais en fait, vous vous rendez compte en ce moment que c'est une suite de réminiscences de l'écriture. De sorte que la prose de Bossuet n'est pas d'abord œuvre d'imagination, et donc des sens externes, de la sensibilité, mais œuvre de mémoire. La mémoire étant une faculté intellectuelle. Et donc, en fait, dans cette réminiscence de la parole, vous avez, puisque toutes les personnes de la Trinité étant présentes là où un de leurs effets est présent, en vertu de l'inséparabilité de l'opération de la Trinité, la mémoire, eh bien, attire en vous l'intelligence dans la compréhension de la parole de Dieu, et du coup, l'amour de l'Esprit Saint qui vous fait vous reposer, vous délecter, dans cette présence du Verbe illuminateur qui vous initie au secret de Dieu. Bref, la prose de Bossuet, à travers cette expérience de mémoire, de réminiscence de la parole de Dieu, vous fait faire une expérience trinitaire de l'écriture. Et ça, on est en plein, évidemment, dans le style augustinien, bien entendu, hein, qui fonctionne de la même manière. Vous savez que saint Augustin nous dit que une analogie de la Trinité, c'est la triade mémoire, intelligence, amour. C'est exactement ce qui se passe dans les méditations sur les évangiles, hein, ou les élévations sur les mystères de Bossuet. Je vous disais. D'un côté, vous avez cette extraordinaire phrase vraiment. Qui est entêtante, hein, quasiment, qui nous fait vibrer en même temps qu'elle, et aussi donc un immense penseur. Alors c'est la particularité, c'est cet aspect-là qu'on a davantage mis en valeur dans une autre édition que j'ai faite, mais que je ne vous ai pas amenée, enfin, sauf que j'en ai juste un volume sur les deux, qui sont des œuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet. C'est celles qui manquaient dans le volume bouquin, qui sont là, pour le coup, des œuvres vraiment de contemplation. Là, nous avons les œuvres de controverse dans celui-ci. Et j'ai fait là une grande préface aussi, qui est presque un petit livre, en fait, que j'avais intitulé « Sainteté de Bossuet ». Parce que, qu'est-ce qui caractérise, à mon avis, cette intelligence de Bossuet, c'est que lui-même représente une sorte de perfection d'un ordre ancien, vous voyez, c'est-à-dire de l'Église de France, qui puise ses origines apostoliques, à travers les divers renouvellements qu'a connu l'Église, spécialement Saint-Vincent de Paul ici, c'est pas n'importe qui, dont il a bénéficié directement, et aussi les renouvellements intérieurs de la monarchie elle-même, qui fait que la monarchie de Louis XIV est à la fois un système qui tire parti des évolutions de la pensée politique de la Renaissance et du début de l'époque baroque, et en même temps qui hérite, en étant parfaitement conscient de cet héritage, de la tradition médiévale et de la monarchie française. Donc c'est vrai que chez Bossuet, vous avez quelque chose qui est quand même une sorte de kairos, un moment particulièrement favorable, où un ordre ancien est parvenu en quelque sorte à sa perfection formelle, et a acquis une certaine stabilité, bien entendu avec la monarchie de Louis XIV, dont on aurait tort de croire qu'elle écrasait tout sur son passage, c'est totalement faux. Elle était parfaitement respectueuse des institutions de l'ancienne France, comme on vient de le voir. Et en même temps, il constate que cet ordre-là, les craquements qui vont quand même finir par l'abattre se laissent voir. Et c'est ce que Paul Hazard a magnifiquement caractérisé dans un livre qui s'appelle « La crise de la conscience européenne », qui décrit justement la situation en France, en Angleterre, en Allemagne, au tournant des années 1690. Et justement à l'époque des grandes controverses de Bossuet. Quelque chose d'ailleurs qui évoque là aussi Ben Sira, parce que c'est assez frappant. Ben Sira aussi est quelqu'un qui écrit à l'époque où l'ordre ancien d'Israël, l'ordre à la fois liturgique, est arrivé à une sorte de sommet et va être compromis par l'hellénisme forcé d'Antiochus Épiphane, de ce qu'on appelle les guerres maccabéennes. C'est juste après Ben Sira en fait. Eh bien, Bossuet aussi a quelque chose de quelqu'un qui a entrevu en fait les craquements menaçant cet ordre auquel il était attaché, donc il est peut-être de cette manière un des plus parfaits représentants. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que la controverse de Bossuet n'est pas uniquement sectorisée à son époque, mais qu'elle est déjà, d'une certaine manière, une réfutation de l'esprit des Lumières. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir en fait cette lucidité qu'il a eue. Alors, je vais vous en donner un exemple. Le discours sur l'histoire universelle. C'est une des rares œuvres que Bossuet a publiées lui-même. Vous voyez, c'est la dernière, que je sache, entreprise sérieuse d'écrire une histoire universelle. C'est-à-dire une histoire de toutes les civilisations, du point de vue de la providence divine. C'est-à-dire penser l'unité du genre humain sous la forme, non pas d'une unité générique, et d'une conception empirique de la nature, mais comme une totalité dans laquelle il y a un principe intérieur qui gouverne cette histoire pour la mener jusqu'à sa finalité. Et qui s'appelle, en théologie chrétienne, la providence. Donc, histoire universelle parce qu'elle est tournée vers l'un. L'histoire des hommes est en fait polarisée par l'avènement de la cité de Dieu. D'ailleurs, les références de Bossuet à la cité de Dieu de Saint-Augustin sont très très visibles. Au fond, il reprend le même schéma, mais actualisé. C'est la dernière tentative sérieuse de penser une histoire universelle. Il y a dans le livre trois parties. La première s'appelle « Les époques » ou « La suite des temps ». Le deuxième s'appelle « La suite de la religion ». Et le troisième, « Les empires ». Alors, la suite, c'est pas chronologique, si vous voulez. C'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que... La première, en fait, retrace, fait une sorte d'histoire complète à partir de l'unité du genre humain, hein, qui est cette unité créée par Dieu, et qui fait que tous les hommes participent à la même histoire en vertu de cette unité originelle. On pourrait dire que c'est une unité naturelle, mais nature telle que lui-même la comprend. Ensuite, la religion, avec Israël au centre. Ça, c'est là où on sent qu'il a tiré parti aussi de, à la fois de Saint-Augustin et de sa connaissance directe des Juifs. Le peuple qui occupe le centre de l'histoire, c'est Israël, parce que c'est un peuple sacré. Et donc l'Église à sa suite, l'Église qui est greffée sur elle. Donc là, une unité qui est en quelque sorte surnaturelle. Voyez. Et la troisième s'appelle les empires, qui retrace comment les civilisations ont cherché à retrouver ce principe d'unité originelle perdue à travers des soubresauts, des campagnes militaires, des guerres, des successions des dynasties, etc. Donc d'un côté, voyez, sens de l'unité naturelle du genre humain. De l'autre, cette polarisation par une unité surnaturelle qui passe par l'Israël et par l'Église. Et d'autre part, le sens aussi de cette unité historique qui passe par les diverses phases, hein, des grands empires qui se sont succédés. Tripartition tout à fait intéressante, puisqu'en fait, elle est exactement à l'image de l'humanisme chrétien de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance. Vous voyez, qui dit que l'humanisme total doit, c'est celui qui est unifié par les langues de la croix, l'hébreu, le grec et le latin. Parce que le grec, c'est la langue de la philosophie, de la connaissance naturelle. L'hébreu, c'est la langue sacrée, de la révélation. Le latin, c'est la langue de la pratique et du droit et de la morale. Et l'humanisme intégral, c'est celui qui fait droit à ces diverses dimensions de la personne humaine. Sa capacité naturelle à connaître et à se tourner vers les réalités spirituelles. Ce don gratuit, surnaturel de l'habitation de Dieu dans les âmes, qui est sa grâce, et d'autre part, cette capacité à agir pratiquement pour faire le bien et l'inscrire dans la réalité matérielle du monde qui l'entoure. Tripartition tout à fait importante, vous voyez, qui est celle en particulier des monarchies, des nations européennes au Moyen-Âge, dans lesquelles les trois grandes institutions sont l'université qui signifie la connaissance naturelle, l'Église qui est gardienne du surnaturel, et la royauté qui est gardienne de la réalité pratique des choses. La manière dont de Bossuet donc conçoit l'unité, c'est bien, elle s'inscrit dans cette manière médiévale, en fait, en réalité, antique, de penser l'unité du genre humain. C'est tout à fait intéressant de voir comment c'est précisément le discours sur l'histoire universelle qui a été l'objet d'une réfutation directe par Voltaire. Voyez, je vous cite des passages. Voltaire a écrit un livre qui s'appelle L'essai sur les mœurs, dont l'autre nom est abrégé d'histoire générale. Voyez, non plus histoire universelle, tournée vers l'un par un principe transcendant, mais histoire générale, c'est-à-dire collection empirique de faits. Là, nous avons de fait tout l'esprit des Lumières là-dedans, c'est-à-dire l'accumulation du savoir plutôt que la recherche de l'unité complète. C'est l'encyclopédisme c'est l'universalité du savoir cède le pas à l'encyclopédisme. Vous voyez ? Et cette sectorisation du savoir, c'est celle que nous connaissons encore aujourd'hui à plein, bien sûr. Donc dans l'essai sur les mœurs, Voltaire prend explicitement le contre-pied de Bossuet. Alors son prête-nom, qui d'ailleurs est plus qu'un prête-nom sans doute parce que c'est pas n'importe qui, c'est Madame du Châtelet, hein, sa grande amie, qui, lisant le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, manifeste hautement son insatisfaction. Elle dit par exemple, elle écrit en marge du chapitre consacré à Israël, la deuxième partie sur la suite de la religion. On peut parler beaucoup de ce peuple en théologie, mais il mérite peu de place dans l'histoire. Bah oui, parce que évidemment, du point de vue de la réalité, encore que ça pose question, c'est pas si vrai que ça, hein, parce que Israël a eu une vraie, a vraiment fait partie de l'histoire. Donc, mais elle comprend pas comment on peut lui donner autant de place. Voltaire écrit aussi: l'esprit si solide et éclairé de cette dame ne pouvait pas souffrir qu'on s'étendît sur les habitants obscurs de la Palestine et qu'on ne dit pas un mot du vaste empire de la Chine. Oui, parce que justement, là, en fait, l'Inde, la Chine, ces grandes nations, bon, Bossuet n'en parle pas beaucoup. Donc, l'histoire générale, hein, vous voyez, doit aussi inclure cette collection de faits, hein, à l'infini, qui du coup, ne refuse de voir dans l'unité des hommes un principe transcendant. Après, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Voltaire a été incapable de... il a bien fallu qu'il trouve quand même un principe d'unité totale. Et regardez là où il le trouve. Il faut recueillir une multitude de faits et rassembler les principaux et les plus avérés qui puissent servir à guider le lecteur et à le faire juger par lui-même de l'extinction, de la renaissance et des progrès de l'esprit humain. Cette méthode est la seule, ce me semble, qui puisse convenir à une histoire générale. Donc, ce qui est intéressant, si vous voyez, c'est que à l'Esprit Saint, un principe de transcendant qui est à l'œuvre dans la providence de Dieu, chez Bossuet, en fait, Voltaire substitue comme principe d'unité de l'histoire générale un esprit humain qui est connu, qui a passé. Vous avez vu comment c'est une espèce de transposition du christianisme, c'est très curieux ça, mais sécularisé en fait. Une forme sécularisée en fait de la providence dans laquelle l'esprit transcendant laisse place à l'esprit humain qui passe par son extinction, c'est-à-dire sa Pâque, hein, sa passion en quelque sorte, sa renaissance, donc une sorte de rédemption et de progrès de l'esprit humain, c'est-à-dire d'évangélisation universelle, de façon à ce que l'esprit positif devienne l'évangile du monde à venir. Vous avez quasiment ici la loi des trois états d'Auguste Comte qui est presque anticipée. Intéressant, donc, si vous voulez, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que, au fond, Bossuet, d'une certaine manière, le dernier représentant d'un ordre qui est celui d'origine antique et médiévale, eh bien, en fait, a été, hein, le contre-exemple des Lumières de la modernité qui ont vu que c'était par rapport à lui qu'il fallait se situer d'une certaine façon, hein, si on voulait vraiment réformer le savoir dans un sens qui soit celui des Lumières positives. Voilà. Et donc, pour terminer, je vous... avant de passer à une discussion qui, ma foi, vaut la peine, je termine par un passage qui est tout à fait approprié, qui est tiré... vous allez voir à quel point la parole de Bossuet est envoûtante. Qui est tiré de l'oraison funèbre du prince de Condé. Prince, s'il m'est permis, après tous les autres, de venir rendre les derniers hommages à votre tombeau, vous vivrez éternellement dans ma mémoire. Votre image y sera gravée, non point avec cette audace à laquelle était promise la victoire. Vous aurez dans cette image des traits immortels, lorsque je vous vis sous la main puissante de Dieu, lorsque sa gloire sembla commencer à vous apparaître. C'est là que je vous verrai plus triomphant qu'à Fribourg et à Rocroi. Et je dirai en action de grâce ces paroles du bien-aimé disciple: Ec est victoria qui vincit mundum, la véritable victoire, celle qui met le monde sous nos pieds, c'est notre foi. Jouissez, prince, de cette victoire. Jouissez-en par l'immortelle vertu de ce sacrifice. Vous mettrez fin à tous ces discours. Heureux si averti par ces cheveux blancs du compte que je dois rendre de mon administration, je réserve aux troupeaux que je dois nourrir de la parole de vie les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint.
Ah ben voilà, Marie-Thérèse a lancé la discussion.
J'ai été très intéressée par votre présentation de Bossuet, que je ne connais pas bien, je m'en confesse. Et je connais un peu plus la Mise.
Ah oui, d'accord.
Et alors, on dit que la Mise a tenté un rapprochement de l'Église protestante, du protestantisme, avec le catholicisme, en écrivant, en correspondant avec Bossuet, et que Bossuet n'aurait pas répondu à l'attente de la Mise. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Oui. Alors, donc, si vous voulez, il y a je ne sais pas à qui, à l'initiative de qui s'est faite la correspondance. Et ce sera Leibniz, d'accord. Bon. En tout cas, il y a eu une correspondance qui a duré plusieurs années avec des échanges de lettres divers et variés. Vous voyez, Bossuet le dialogue avec le protestantisme a duré toute sa vie. Enfin, il a commencé donc sérieusement à Metz. Donc, il s'est poursuivi pendant pratiquement 50 ans. Et Bossuet, si vous voulez, était toujours. Il avait élaboré une méthode qui était typique. C'était que il était très prudent vis-à-vis de ce que la pensée catholique avait pu produire depuis la Réforme. En se disant, c'est vrai que si on demande aux protestants de se rallier à ces choses qui se sont rajoutées depuis le XVIe siècle, forcément, ils vont nous dire, oui, mais enfin, ça, c'est des nouveautés que nous désapprouvons. Et donc, il s'est efforcé, dans sa méthode, de toujours montrer la continuité de la pensée chrétienne depuis les origines, son développement organique, et en leur disant que être catholique n'oblige pas à croire certaines choses qui en fait sont optionnelles par rapport à la foi vraiment apostolique. Et c'est cette espèce de conservatisme, on pourrait dire, qui le caractérise, qui lui a permis de fait d'engager un dialogue très fructueux sur ce qui étaient les véritables points de désaccord avec les réformateurs. Et c'est ce qui est là que sur les points là où vraiment la réforme s'est séparée de cette continuité de la tradition chrétienne, il n'a jamais voulu transiger par rapport à ça. C'est sur le fait que l'Église soit la dépositaire, enfin l'Église catholique soit la dépositaire du trésor authentique de tradition dans le culte des saints, dans l'Eucharistie, dans l'apostolicité, dans l'épiscopat, etc. Toutes ces notions-là, il n'a jamais transigé absolument là-dessus. Or, c'est là-dessus, si vous voulez, que Leibniz, qui s'attendait à voir quelqu'un qui était prêt à des transactions, y compris sur des points vitaux comme celui-là, s'est heurté, de fait, à une fin de non-recevoir. Vous voyez ? Et parce que, d'une certaine on voit bien, en plus, Leibniz demandait en quelque sorte à Bossuet de condamner le Concile de Trente. Vous voyez ? Voilà. Et sachant que vous avez le Concile de Trente a quand même affirmé un certain nombre de choses comme étant de foi, évidemment dans un contexte de définition par rapport à la Réforme, sur l'Eucharistie, sur l'apostolicité de l'Épiscopat. Là, Leibniz disait appliquez votre méthode jusqu'au bout, puisque vous ne nous imposez pas les choses qui ont été définies après, faites bon marché du Concile de Trente qui a été tenu après la séparation des Églises. Et là, Bossuet a dit, mais c'est pas possible. Parce que, d'une certaine manière, Bossuet craignait de tomber dans le relativisme. Voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, à ce titre-là, il n'en voulait pas. Donc, si vous voulez, c'est sur ce point-là, je crois que c'est fait le malentendu. Mais néanmoins, ils ont quand même mené un dialogue assez exemplaire. Parce que, encore une fois, Bossuet savait y faire. Et puis Leibniz aussi. Mais le dialogue, par exemple, de Bossuet avec Turenne est tout à fait extraordinaire. Turenne était protestant, très attaché en fait au protestantisme. Et Bossuet a passé des années en fait à dialoguer avec lui, à lui expliquer des choses. Voilà. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Voilà. C'est pas Bossuet qui l'a envoyé promener. Hein, c'est pas comme ça. C'est qu'à un moment, si vous voyez, ils en sont arrivés à des points incompatibles. C'est-à-dire que Bossuet demanda à Leibniz de reconnaître que l'apostolicité de l'Église fait partie du dépôt sacré. Et Leibniz demandait à Bossuet de condamner le Concile de Trente. Là, si vous voulez, vous pouvez plus entendre.
Marc ? Oui, pardon, oui.
Oui, entre Voltaire et Pascal, il y a une espèce d'ambiguïté. Je parle de Pascal, effectivement, parce qu'il l'admire et à la fois il ne le comprend pas, ou il fait semblant de ne pas comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable vis-à-vis de Bossuet, ou est-ce que c'est vraiment du mépris ?
Ah non, c'est pas du mépris. Non, il ne le méprise pas du tout. Non. En revanche, vous savez qu'une des armes de constante de Voltaire, c'était la dérision et l'ironie. Et du coup, pour se débarrasser de ses adversaires, parfois, il manie ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il le méprisait. Hein. C'est plus un artifice rhétorique. Vous voyez, il y a un endroit où ça se voit, par exemple, c'est dans le discours sur l'histoire universelle, Bossuet couvre l'Égypte de grands éloges. C'est-à-dire que vous avez des passages magnifiques, d'ailleurs, qui sont presque la source de l'égyptomanie française. Et je pense d'ailleurs que ça fait partie des choses que Bonaparte avait en main au moment de l'expédition d'Égypte. Puisque Bonaparte dit que lorsqu'il lisait le discours sur l'histoire universelle, il avait le sentiment de voir danser les dieux. Donc cette évocation de l'Égypte a certainement fait rêver Bonaparte dans sa jeunesse. Donc Bossuet dit des choses magnifiques hein, sur le gouvernement, le sens du travail, etc. Alors d'un pays qui ne connaissait que par des livres, vous voyez, c'était... Bon. Et donc il n'en faut pas plus pour que Voltaire couvre l'Égypte de ridicule, vous voyez. Je vous lis un passage. « L'esprit de la marquise du Châtelet fut frappé de l'éloquence avec laquelle Bossuet peint les Égyptiens. » Elle voulut savoir s'il y avait autant de vérité que de génie dans cette peinture. Elle fut bien surprise quand elle vit que les Égyptiens, tant vantés pour leurs lois, leurs connaissances et leurs pyramides, n'avaient presque jamais été qu'un peuple d'esclaves, superstitieux et ignorants, dont tout le mérite avait consisté à élever des rangs inutiles de pierre les uns sur les autres, par l'ordre de leurs tyrans. Par l'ordre de leurs tyrans. Qu'en bâtissant leur palais superbe, ils n'avaient jamais su former une voûte, qu'ils ignoraient la coupe des pierres et que toute leur architecture consistait à poser de longues pierres plates sur des piliers sans proportion. Donc, ça, si c'est pas de la mauvaise foi, hein, je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, ça ne veut pas dire que Voltaire méprisait. En revanche, c'est l'arme de l'ironie et de la dérision. Pour en fait, pour mettre les rieurs de son côté hein, et dans un grand éclat de rire, se permettre d'avoir résolu une question. Ah, c'est efficace, mais alors c'est très malhonnête intellectuellement. Hein, voilà.
Vous avez utilisé à plusieurs reprises les termes de dialogue ou de controverse. Mmh. Qui n'est pas dans le même champ.
Ah oui,
alors,
tout à fait.
Est-ce que, par rapport à Bossuet, vous pourriez dire, alors peut-être par rapport aux protestants, au quiétisme,
oui.
Par rapport au judaïsme, peut-être également. Et j'aurais une question subsidiaire, sur le plan historique, quelle a été sa position par rapport à la révocation des Édits de Nantes ?
C'est vrai que, quand je parle de dialogue, j'emploie une catégorie moderne, mais de fait, chez lui, ce n'est pas du dialogue, c'est toujours de la controverse, au sens où Bossuet n'abandonne jamais la position dont il croit qu'elle est la sienne, qui est celle d'un docteur de la foi. Il est évêque, après tout. Hein, voyez. Et ça, c'est ce que disait Jean d'Ormesson. Bossuet, le dernier père de l'Église, attendez, comment il disait ? Dans notre âge de la mort de Dieu, on n'a plus vu en Bossuet que l'homme sûr de son système et de sa vérité. Et ça, alors là, pour le coup, Bossuet n'a aucune espèce de doute par rapport au fait que la révélation et la tradition le mettent dans une situation de pouvoir, par un charisme spécial, qui est le charisme des docteurs de la foi, de pouvoir juger de la culture. Ça, c'est une prétention. On ne peut pas le comprendre si on ne la lui prête pas. Donc, si vous voulez, sa position n'est pas de dialogue. En revanche, il a pu avoir après, au plan privé, de véritables dialogues avec des personnes. Ça, c'est clair. Avec Turenne, on le voit bien. Avec Leibniz aussi. En revanche, quand il portait les choses sur la place publique, là, on passait dans le registre de la controverse parce qu'il agissait en tant qu'évêque. Vous voyez ? Et donc, l'histoire sur les variations, c'est un livre de controverse, tout à fait admirable d'ailleurs dans son genre. La relation sur le quiétisme aussi. Mais ça, c'est des œuvres publiées, et donc qui sont destinées au public, donc dans laquelle il engage sa propre autorité. Vous voyez ? Et donc, c'est de la controverse. Quant à la révocation de l'édit de Nantes, si vous voulez, il avait, en tant qu'évêque, il devait gérer la question des nouveaux convertis, c'est-à-dire des protestants devenus catholiques, pas toujours dans les circonstances très, très favorables, plutôt sous la pression, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres de lui qui sont adressées aux nouveaux convertis. Des catéchismes, etc. On sent qu'il a vraiment pris la question à cœur pour pouvoir instruire ces gens-là. Après, sur la controverse sur l'édit de Nantes, il a une position de pasteur. Et il ne s'est jamais prononcé sur le fond de la chose, qu'il ne remettait pas en cause. Et vous savez que la révocation de l'édit de Nantes a été vécue comme une... comme la fin d'une... Enfin, surtout à partir de l'avènement du règne personnel de Louis XIV, c'était la fin d'une anomalie. C'est-à-dire que les protestants avaient obtenu par la sédition un statut favorable dans le royaume. Dès lors que la monarchie avait retrouvé sa force et son prestige, ce statut arraché par la violence n'avait plus lieu d'être. C'est comme ça que c'était vu par les contemporains. C'est au XVIIIe siècle qu'on y a vu autre chose, etc. Et puis Pierre Bayle, etc. Bon. Mais dans la constitution du royaume très chrétien, cette situation était une anomalie. Et le fait qu'il ait été arraché par la force justifiait de le réduire par la force également. Vous voyez, ça c'était là. Donc ça, de ce point de vue-là, Bossuet n'aurait pas questionné le fait que l'édit de Nantes ne pouvait être qu'une réalité transitoire. Elle n'était pas conforme à la nature même du royaume. Ça, c'est comme ça qu'il voyait les choses, encore une fois. Voilà.
Pourquoi n'a-t-il pas été canonisé comme tant d'autres pères ?
Ah, alors déjà parce qu'il n'est pas un père de l'Église stricto sensu, au sens où on dit que le dernier des pères de l'Église, c'est saint Bernard de Clairvaux. Donc, vous voyez, c'est le XIIe siècle, donc c'est plus l'âge des pères. C'est que, quand je dis c'est le dernier père de l'Église, c'est qu'il ressemble au père. Mais c'est vrai que c'est pas un père de l'Église. Après, la raison pour laquelle il n'a pas été canonisé, je me le demande, parce qu'il est évident qu'il est saint, et que c'est un prophète, qu'il a compris les choses à l'avance, avec une espèce de lucidité qui ne peut venir que d'en haut. Après, il y a une raison très simple, c'est que c'est lui qui a rédigé la déclaration des quatre articles, donc avec un certain nombre de propositions dites gallicanes. Mais il faut faire très attention à une chose, c'est qu'en particulier, Bossuet, par exemple, vous voyez, typique, Bossuet ne croyait pas à l'infaillibilité personnelle des papes.
Dans la controverse gallicane, il était du côté du roi.
Non, mais attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus compliqué parce que vous savez que le roi était arbitre aussi. Hein. Enfin bon, c'est plus compliqué que ça. Bon. C'est très compliqué l'histoire du gallicanisme parce qu'on croit toujours qu'il y a deux acteurs. En fait, il y en avait trois. Il y avait l'Église de France, le roi et le pape. Et on oublie toujours l'Église de France, en fait. On croit toujours que c'est un conflit entre le roi et le pape, mais c'est pas ça. Il y a un troisième terme qui est l'Église de France qui ne doit son existence qu'à elle-même. Voyez, et donc qui est tout aussi légitime pour s'opposer tantôt au pape, tantôt au roi. Donc ça c'est... Donc Bossuet était du côté de l'Église de France, d'abord. En revanche, parce que si vous voulez, les positions qu'il a tenues dans la déclaration des quatre articles sont des positions traditionnelles de l'Église de France. Hein, ce ne sont pas des demandes du roi. Bon. Et en particulier, donc, il ne croyait pas à l'infaillibilité personnelle des papes. En revanche, il a ouvert la grande assemblée du clergé qui a abouti à la déclaration des quatre articles, l'assemblée de 1681, juste après avoir été nommé évêque de Meaux, par un sermon qui est une de ses plus belles œuvres, qui s'appelle le sermon sur l'unité de l'Église, dans lequel, vous voyez, qu'il ne croit pas à l'infaillibilité personnelle des papes, mais en revanche, il croit dur comme fer à l'indéfectibilité dans la foi de la chair de Pierre. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est que l'infaillibilité personnelle, c'est quelque chose qui est propre au souverain pontife lui-même. Or, ça, il n'y croyait pas, parce que pour lui, c'était pas traditionnel. Mais en revanche, il croyait à l'indéfectibilité dans la foi de la chair de Pierre, c'est-à-dire qu'il croyait que l'Église de Rome avait toujours été le dépôt de la vérité catholique, et que c'est elle qui est au centre de l'histoire à la suite d'Israël, comme cette Église, c'est l'Église de Rome, sur laquelle les portes de l'enfer ne prévaudraient pas, conformément à la promesse de Jean de Matthieu 16. Voyez. Donc, vous dites que c'est des querelles subtiles, mais c'est qu'en fait, pour Bossuet, l'indéfectibilité, elle est propre à l'Église de Rome. Et pas à l'infaillibilité personnelle des souverains pontifes. Donc, c'est des nuances. Mais en réalité, il croyait que l'Église de Rome était le dépôt pérenne de la foi, de la vraie foi chrétienne. Donc, si vous voulez, pour lui, quand on dit qu'il est gallican, c'est faux, en fait. Ou plutôt, gallican, pour lui, c'est catholique en France, quoi, c'est tout. C'est ça. Voilà. Et donc, catholique romain, c'est, évidemment. Simplement, c'est des choses, si vous voulez, dont on a perdu l'idée, parce que, avec le concordat de Bonaparte de 1801, l'Église gallicane a été liquidée comme telle. Et elle n'est plus qu'un corps administratif entre le pape d'un côté et les souverains divers de France, empereur, roi, république, que sais-je, de l'autre. Bon. Et elle n'a plus d'existence en quelque sorte propre. Bon. Mais pour Bossuet, l'Église de France, elle avait sa légitimité historique, elle avait ses institutions, elle avait ses saints, elle avait même son droit. Donc c'est ça, si vous voulez, quand il dit qu'il était gallican, ça voulait dire ça. Donc c'était absolument pas... C'est surtout pas qu'il aurait cru à une suprématie politique du roi sur l'Église. Alors ça, vraiment, surtout pas. D'ailleurs, en fait, de toute façon, le roi lui-même n'en voulait pas. Ça, vous aviez des juristes du Parlement qui, eux, éventuellement, auraient pu maintenir cette notion de la suprématie de l'État sur l'Église, et qui s'est traduite par la constitution civile du clergé pendant la Révolution, mais les rois eux-mêmes ne l'ont pas fait. Parce que les rois savaient très bien que l'élément le plus grand du prestige des rois de France, c'était précisément d'être les fils aînés de l'Église. C'était beaucoup plus intéressant d'être fils aîné de l'Église catholique et romaine que d'être en état de suprématie sur son Église locale. C'est beaucoup plus prestigieux. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est toujours un terme à trois parties. Et donc le roi lui-même était gallican, sans doute, oui. Mais en revanche, il n'était absolument pas pour une rupture schismatique avec l'Église de Rome. C'était impossible selon les institutions d'Ancien Régime. Comme on l'a bien vu d'ailleurs avec Henri IV.
Vous l'avez présenté comme représentant d'un ordre ancien.
Oui.
L'entendant craquer.
Oui. Craqueler, quoi. Pas craquer, mais craqueler. Voilà.
Oui. Est-ce qu'il a entendu ces craquelures?
Ah oui, bien sûr, justement.
Qu'est-ce
oui.
qu'il en a fait? Et est-ce que, par exemple, pour lui, il pouvait y avoir une place, non pas à Voltaire vraiment, mais à l'historico-critique?
Si vous voulez, il y avait une, évidemment qu'il y avait une place.
C'est la dérision, mais il y avait quand même déjà à cette époque.
Oui, oui. Ah bien sûr, ça justement, la défense de la tradition et des saints-pères, qui est cette œuvre qui est rééditée donc dans cette édition-là, est un texte dirigé contre Richard Simon. Si vous voulez, c'est que il y avait une place, bien entendu, puisque lui-même justement, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un immense trésor d'érudition. Donc, de ce point de vue-là, il est parfaitement conscient que les études historiques sont nécessaires. Il en a lui-même bénéficié. En revanche, ce qu'il pressentait, c'était qu'à travers la méthode historico-critique, arriverait un moment où on prétendrait tirer des conclusions scientifiques sur ce que dit l'Écriture sainte. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au fond, que ce serait par la science et par l'investigation de la théologie positive que qu'on pourrait dire ce que l'Écriture dit. Or ça, c'était inacceptable pour lui. Ça me frappe beaucoup. C'est que quand vous regardez l'histoire critique du Vieux Testament de Richard Simon, donc qui est vraiment un ouvrage assez fascinant de certaine manière, mais qui est un précurseur de la méthode historico-critique, il n'y a pas une seule des conclusions scientifiques de Richard Simon qui soit encore valable aujourd'hui. Alors que la manière dont Bossuet se saisit de l'Écriture sainte en Église, comme le souffle qui inspire la parole des prédicateurs et des docteurs en permanence, ça n'a pas pris une ride. La manière dont Bossuet traite l'Écriture sainte correspond exactement à ce pourquoi l'Écriture sainte est faite, c'est-à-dire comme inspiration, comme dépôt authentique qui accompagne l'Église pour la suite des âges, qui accompagne la prédication, la catéchèse, la controverse, tout ce que vous voulez. Elle n'a pas pris une ride, en fait. Alors que les conclusions scientifiques de Richard Simon sont toutes caduques. C'est sûr que Bossuet voulait maintenir cet état-là de l'Écriture sainte. Cet état qui est proprement cette collusion, si j'ose dire, entre l'Église et l'Écriture, qui fait que l'Église, l'une n'existe pas sans l'autre. Et qu'aucune scientificité ne peut s'interposer, sinon à titre informatif.